Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue Mégane à Studio Zef pour nous parler de ta vie d'infirmière spécialisée en toute petite enfant, mais pas que.
Merci Sophie de m'accueillir. Je suis ravie que tu aies pu m'inviter pour que je parle de mon parcours, de cette aventure en tout cas de l'entrepreneuriat qui est riche, je pense que c'est le bon mot.
Tu as créé ta propre entreprise il y a quelques temps. De quoi s'agit-il ?
J'ai créé ma micro-entreprise qui s'appelle Naître et Renaître en fin d'année 2023 pour partir un petit peu de mes débuts. Donc, je suis infirmière depuis 2016 et je suis passionnée par le monde de la maternité depuis toujours sans forcément que j'aie une explication à ça, même si justement le chemin de l'entrepreneuriat me permet de comprendre plein de choses. Donc je suis infirmière. J'ai commencé à travailler en maternité en 2022 dans un contexte un petit peu compliqué puisque dans la maternité où j'ai commencé à travailler, il n'y avait plus assez de sages-femmes. L'hôpital ayant été obligé d'ouvrir des postes infirmiers pour pouvoir faire vivre le service. Donc vraiment un contexte compliqué pour cette première expérience dans le monde de la maternité. Pour autant, j'ai tout de suite su que j'étais exactement là où je devais être, mais les conditions ne me convenaient absolument pas. Et c'est suite à un changement de vie, donc j'ai travaillé quelques mois en service de maternité dans la Nièvre à l'époque, et c'est suite à un changement de vie personnel qui s'est fait très rapidement que je suis arrivée dans le Loir-et-Cher. Et une fois arrivée dans le Loir-et-Cher, je savais que je voulais autre chose pour ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'étais certaine que je voulais rester dans le monde de la maternité. Pour autant, je voulais plus. Plus pour les familles, plus pour les bébés, plus pour les parents, et plus pour moi. Pour m'y retrouver et pouvoir travailler selon mes propres valeurs. Donc j'ai quand même osé démissionner de la fonction publique à cette époque-là, puisque je savais que je voulais autre chose, je ne savais pas encore, mais j'ai pris la décision de démissionner de la fonction publique pour me sentir peut-être plus libre de pouvoir faire quelque chose après qui me corresponde plus. Donc après quelques mois à me poser, à faire une introspection personnelle aussi parce qu'un changement de vie, ça chamboule énormément. Nous n'avons plus de repères. On doit aussi beaucoup compter sur soi-même. Mais c'est aussi la possibilité de tout recommencer, quelque chose de nouveau. Donc pendant quelques mois, je me suis posé énormément de questions à savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et le métier d'accompagnante périnatale est arrivé et m'a semblé être une évidence, bien qu'étant un métier très 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 peu reconnu, voire pas du tout dans notre pays, puisque dans d'autres pays, il y a des choses qui sont quand même plus évoluées par rapport à ce domaine-là. Mais j'ai quand même décidé de me lancer. Donc j'ai fait beaucoup de recherches par rapport aux différents centres de formation qui existaient, parce que je me suis rendu compte que ce métier d'accompagnante périnatale n'étant pas reconnue, il y avait beaucoup de dérives. Et même si je décidais de me lancer dans le monde de la micro-entreprise, je voulais rester alignée et faire très attention à rester à jour dans les protocoles, dans les manières de faire. Le côté infirmière quand même, un petit peu psychorigide, j'ai envie de dire, revenez aussi. Et je trouve que c'est important justement de se dire que je suis accompagnante périnatale et professionnelle de santé à la base. Et c'est comme ça que je défends mon travail. Et donc pour revenir au parcours de ma micro-entreprise, j'ai réalisé plusieurs formations dans des centres reconnus comme l'École du bien-être à Paris, créée par Sonia Krief, qui est un professionnel de santé reconnu auxiliaire de puériculture depuis des années. Et donc toutes ces formations m'ont permis de me découvrir et n'ont fait que confirmer ce choix, puisque je pouvais enfin être moi. Et ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué dans ma vie pro et perso, dans le sens où je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que j'ai tant l'impression d'être différente ? Alors, est-ce que je fais mal ? Est-ce qu'il y a un problème de mon côté ? Simplement de me dire que non, on peut être infirmière, on peut faire un travail correctement, dans le respect et en étant soi-même, et en travaillant avec ses émotions, avec authenticité, et c'est justement là que je me rends compte que c'est ma force. en tant que professionnelle.
Quelles sont ces valeurs que tu as découvertes comme étant les tiennes et sur lesquelles vraiment tu es intransigeante ?
L'empathie, tout simplement parce que c'est pour moi la base de mon métier d'infirmière. Mais quand on est dans des services de soins surchargés, en manque de personnel, eh bien, on commence à ne plus être aligné avec soi-même parce qu'on a beau être empathique, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. C'est ce qui me guide, c'est une valeur qui me guide dans ma vie de tous les jours, que ce soit par rapport à mes enfants, à mes amis, et surtout mon travail, se mettre à la place de l'autre, que ce soit le bébé ou les parents. On vient le non-jugement, le respect, puisque quand on se met à la place de l'autre, on ne juge plus.
Oui, ou voilà. Alors c'est qu'on s'auto-juge, et à ce moment-là, il faut peut-être faire un travail sur soi.
Exactement.
Alors, qu'apparemment, tu as déjà fait.
Je l'ai fait et je suis toujours en cours, parce que je pense qu'on a énormément de choses à travailler quand on revient sur plein de choses dans la vie. Et du coup, quand on vient à travailler avec les nouveau-nés, y a plein de questions qui reviennent et qui remettent en cause plein de choses par rapport à nous personnellement et à notre manière, par exemple, de faire avec nos enfants.
Ce travail, justement, de remise en question, de travail personnel, est-ce que tu penses qu'il est essentiel pour toute personne qui se met à son compte ?
Oui, je pense. Quand on se met à son compte, je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui ressurgissent et qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de créer quelque chose rien que pour moi ?
Rien que pour toi, tout en restant dans l'empathie. Donc, on sent quand même que tu es au service d'une cause, au service du bébé, on dira.
J'entends pas rien que pour moi, pour les autres, en fait. Parce que je pense que c'est en moi, vraiment, servir une cause, quelque chose qui est dans mes tripes, c'est ce que je dis toujours, qui me fait vibrer. Et moi, c'est vraiment le bien-être parental, le bien-être des nouveau-nés, des nourrissons, même en prénatal, j'ai envie de dire, dans tout cette parcours de la parentalité. Et ce bien-être vraiment mental et psychologique, au-delà du physique. C'est vraiment ça qui me parle et qui est en lien avec, je pense, ma personnalité. Tout se lie donc par créer pour moi, pour être mieux pour les autres, en fait. Avoir un accompagnement qui est beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus personnalisé. Prendre le temps, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur.
Si j'ai bien compris, tu as quitté la fonction publique. Tu as quitté définitivement le salariat ou pas ?
Non, en fait, j'ai démissionné de la fonction publique parce que je me rendais compte qu'en étant fonctionnaire, on avait plein de barrières. Et moi, les barrières, j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai démissionné de la fonction publique. J'ai créé ma micro-entreprise, j'ai pris le temps de faire mes formations. Et quelques mois après, afin de me sentir plus sereine et plus en sécurité, j'ai décidé de retourner dans le monde du salariat. Donc je travaille actuellement à la maternité du centre hospitalier de Romorantin. Et j'ai fait ce choix parce que c'est une maternité qui se rapproche au plus proche de mes valeurs. Donc j'ai plein de casquettes, celle de maman, celle d'auto-entrepreneur avec ma micro-entreprise et celle de salarié au sein d'une maternité, mais pas à temps complet.
Oui, j'imagine, sinon tu n'aurais pas le temps pour ta petite famille et ton activité de cœur. Est-ce que tu arrives à avoir une vision du temps que tu passes sur chacun des pôles de ta vie ?
Non, parce que ça, c'est un côté de moi qui est encore un petit peu compliqué à gérer. Je veux pouvoir tout faire parfaitement. Donc, je suis sur tous les fronts tout le temps, mais en fait, ce travail me nourrit tellement que je ne ressens pas forcément de fatigue ou d'épuisement, parce que c'est ce que je dis, c'est dans mes tripes, ça me nourrit. Je dois juste par moment faire attention à avoir un temps de qualité pour moi aussi. Donc c'est compliqué, bien sûr, puisque je travaille à 80% à la maternité en poste de 12 heures, de jour et de nuit. Ma micro-entreprise, je ne compte pas mon temps. Je serais incapable de dire combien de temps j'y passe, puisque c'est tout le temps dans ma tête. Je n'ai pas forcément d'emploi du temps, je me donne corps et âme pour que ça puisse fonctionner, donc on le sait. Hein. Au début, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, on ne compte pas ses heures, mais je pense que c'est tout naturel pour moi, parce que c'est totalement ce qui me correspond. Et je fais aussi, surtout, très attention à pouvoir être disponible pour mes enfants, puisque ce choix, il est aussi là pour ça. C'est travailler pour être passionné, pour ma passion, et pouvoir avoir un emploi du temps qui me permet d'être disponible pour mes enfants.
Ton travail, donc, c'est un équilibre entre ce que tu fais en tant que salarié et ce que tu fais, toi, à titre personnel. Ta création, tu fil vraiment rouge entre les deux activités.
Les deux sont très, 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 très liés, puisqu'on est sur la maternité. La maternité, la périnatalité, mais vraiment au plus proche de la naissance. Je pense que c'est vraiment la naissance. La naissance de la mère, la naissance du père et la naissance de cet enfant et donc de cette triade, voire plus, hein, puisqu'il y a aussi également la fratrie. Mais je pense que le bon mot, c'est la naissance.
La naissance.
Ouais.
Ton activité, présente-la nous, parce qu'on l'a un peu effleuré depuis tout à l'heure. On sait que c'est autour du bébé, on sait que tu es formée sur du bien-être, mais qu'est-ce que tu fais exactement ?
Alors, le métier d'accompagnante périnatale, il permet d'offrir aux parents un accompagnement non médical. Donc, je ne remplace absolument pas le rôle du gynécologue, le rôle de la sage-femme. C'est vraiment un plus pour les parents qui me paraît absolument à ce jour indispensable, parce que je travaille en maternité, donc je peux voir ce qui est offert aussi bien pendant la grossesse qu'en post-natal. Et on le voit très bien en post-natal, c'est vraiment, même s'il y a des efforts de fait, un petit peu le néant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les parents. Donc le métier d'accompagnante périnatale, bah, c'est de l'accompagnement aussi bien physique que psychologique, qu'organisationnel, puisqu'on travaille vraiment sur... Enfin, je travaille puisqu'on a toutes et tous des manières de travailler différentes, mais c'est vraiment d'apporter un soutien, une oreille attentive qui écoute sans jugement, qui apporte des conseils lorsqu'ils sont demandés. Voilà, c'est vraiment très global, mais j'interviens sur tous les plans où je le sens, où je sens qu'il y a besoin. Et surtout, je tiens à le souligner, je sais rediriger. C'est-à-dire que je ne remplace pas la prise en charge médicale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, j'ai cette capacité à savoir où sont mes limites, m'entourer des professionnels qui gravitent autour des parents et des bébés, et pouvoir rediriger quand je sens que là, moi, je n'ai plus la possibilité d'eux. Et c'est ça qui est très important dans ce métier, et c'est ça qui peut faire peur, dans le sens où il n'est pas reconnu, c'est qu'il faut vraiment savoir bien le faire aussi. Où sont mes limites ? Quel est le cadre que je m'impose pour maintenir une sécurité, aussi bien pour moi que pour les familles ?
On est dans l'entrepreneuriat, on est dans l'auto-entrepreneuriat, la micro-entreprise. Pour la plupart des gens, il y a cet imaginaire qu'on fonctionne tout seul. C'est absolument pas le cas.
C'est absolument pas le cas. C'est pour ça que c'est important aussi de bien sélectionner nos centres de formation et d'être formé par de bons professionnels qui, du coup, nous permettent de nous sensibiliser au fait de faire attention dans notre manière de travailler et de s'entourer, d'avoir un cercle de professionnels autour. Fiable, à qui on peut déléguer lorsque bah, nous, tout simplement, on ne suffit plus. Donc que ce soit sage-femme, psychologue, association. Je parle aussi là surtout par rapport au postpartum. Il y a plein d'associations qui existent qui permettent de sensibiliser, d'informer et de venir en aide, de soutenir. Parce que le mot aide, il est compliqué pour les parents. Le soutien, c'est mieux. Gynécologue, voilà, il y a vraiment plein de professionnels autour de moi où je sais que je peux déléguer lorsque moi, je ne suis plus en capacité de. Donc non, je suis seule pour gérer le cœur, pour m'organiser, c'est moi qui décide de mon organisation, d'avec qui je veux travailler, avec qui je ne veux pas travailler, dans quelles conditions je veux travailler ou pas, qui fixe mes limites. Mais heureusement, pour les familles, je ne suis pas vraiment seule.
Il y a une période où tu interviens, donc on comprend que ton activité commence après la naissance, mais jusqu'à quand ?
Alors, j'interviens même avant la naissance. Ouais. Et c'est là que c'est très important de le souligner, c'est que pour bien se préparer dans la parentalité, même si c'est compliqué quand on n'est pas encore parent, c'est très important d'agir en prénatal, de se préparer aux choses, d'être informé. Je le dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Donc j'interviens en prénatal, que ce soit au niveau par exemple de l'allaitement, informé, sensibilisé pour pouvoir permettre aux parents de prendre une décision libre et éclairée et pas biaisée par tout ce qu'on peut entendre autour. J'interviens en prénatal grâce au massage femme enceinte aussi et par rapport au postpartum des cercles de parole pour se préparer au postpartum et vraiment que les femmes puissent se sentir en capacité d'agir en cas de difficulté. Une fois que bébé est là.
Donc le postpartum, là tu l'anticipes vraiment. Le bébé n'est pas encore là, on en parle déjà.
Voilà. Et même si c'est compliqué parce qu'on a beau dire préparez-vous, informez-vous, quand on est enceinte, on n'a pas toujours en tout cas la capacité de se projeter sur ce après et de se dire est-ce que ça va être compliqué ? Est-ce que vraiment ça va être compliqué ? De quoi je vais avoir besoin ? Et l'information, la prévention, c'est quelque chose qui me botte depuis toujours d'ailleurs dans mon métier d'infirmière, puisque ayant travaillé en diabétologie, j'ai été formée à tout ce qui est promotion à la santé, éducation du patient, etc. Et c'est quelque chose qui me paraît très 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 important et dont je me sers toujours dans mon métier d'accompagnante périnatale. Donc j'interviens voilà, en prénatal pour informer, sensibiliser, prévenir. Et en post-natal, j'ai envie de dire que là, la limite, elle n'existe pas vraiment. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'être au plus proche de la naissance. Mais on le sait, le postpartum dure 3 ans et je me demande s'il dure même pas un petit peu plus longtemps.
Ça, je crois que beaucoup de gens pensent que... alors déjà, il y a ceux qui ont cette croyance que 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour s'en remettre. Ça, je l'ai entendu. Mais effectivement, il y a des cultures, et pas la nôtre, où l'on dit clairement qu'on ne se remet pas d'une grossesse comme ça du jour au lendemain, qu'on ne se remet pas de l'arrivée d'un enfant du jour au lendemain, déjà corporellement, mais aussi psychique. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais tout changé, tout... dû repenser en arrivant en Loir-et-Cher.
Ouais, d'où le nom de ma micro-entreprise que je n'ai même pas eu à chercher, qui s'appelle du coup Naître et Renaître. Mmh. Mais le mot Renaître, je ne l'ai pas écrit comme il existe. C'est vraiment un jeu de mots, je l'ai écrit R-E-N-E, accent circonflexe, T-R-E, comme le mot être. Et plus j'avance dans mes pratiques, plus je me rends compte que ce nom de micro-entreprise, il n'aurait pas pu être plus parfait. parce que c'est vraiment ça, c'est on est en tant que femme, on est en tant que mère, on est en tant qu'enfant. Et moi, ce travail me fait renaître, exactement, et me permet de m'accepter telle que je suis, de travailler en toute authenticité avec mes émotions, puisque à l'école d'infirmière, on nous apprend souvent à faire très attention aux émotions qu'on peut ressentir quand on accompagne les familles. Et moi, je me suis jamais sentie alignée avec ça. J'ai toujours eu l'impression de travailler différemment et d'avoir dû être moi-même pour accompagner comme il se devait les familles. Et je pense que c'est ma force, mais c'était pas toujours bien vu, surtout par l'encadrement, quand je travaillais dans d'autres services. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de me dire que je suis exactement là où je dois être et que j'ai pas besoin d'être différente pour travailler dans ce monde-là et qu'au contraire, d'être moi-même dans ce monde-là, c'est ma force. Donc oui, cette activité m'a vraiment, vraiment fait renaître.
C'est très joli. Quand tu as décidé, donc, une fois que la formation a été faite, tu t'es dit, bon, bah, maintenant, il va falloir se lancer. Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, j'ai fait plusieurs formations. J'ai pas fait appel à un seul centre de formation, même si c'est celui qui me correspond le mieux, parce que bah, je voulais voir différents univers, différentes manières d'apprendre. Donc mon cursus de formation, il s'est fait sur plusieurs mois. J'ai commencé en juin 2023 et j'ai terminé mes formations en fin d'année 2023. Et en fait, j'ai pas attendu d'être prête et d'avoir tout terminé. À partir du moment où j'ai su que je savais vers quoi je voulais me diriger, j'ai commencé déjà à partager ce parcours-là sur les réseaux sociaux, parce que j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux. Et je pense que j'ai partagé ce cheminement avec les gens et que, de ce fait, ils comprennent exactement pourquoi je prends ce chemin. Donc, il n'y a pas eu de « je prends la décision de me former, je suis formée, j'ai mes attestations de formation, je me lance ». Ça a vraiment été très progressif. J'ai partagé mes formations, j'ai partagé mes doutes, j'ai partagé ce qui me correspondait, ce qui ne me correspondait pas. Et la création de la micro-entreprise fut longue administrativement, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de moment où je me suis dit « je suis prête, j'y vais ». Ça a vraiment été très progressif et j'ai partagé tout ça avec les gens. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de faire comprendre un petit peu ce que je voulais partager et apporter.
À l'heure actuelle, donc, tu es identifiée sur les réseaux sociaux, mais comment les gens qui viennent te solliciter se trouvent ?
Alors ça a été très 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 long, tout simplement puisqu'en arrivant dans une nouvelle région, je n'avais aucun réseau. En arrivant ici, on n'avait pas de famille, pas d'amis. Donc ça a été très long, mais j'avais plusieurs petites casquettes qui m'ont aidée. Au milieu de ce travail d'infirmière, au milieu de la création de la micro-entreprise, j'ai eu des petites expériences sur les réseaux sociaux, dans le marketing relationnel, le marketing de réseau. Si je parle de Tupperware, ça vient tout de suite à l'idée. J'avais déjà une petite activité comme ça autour du bien-être féminin, prendre soin de soi, etc. Et du coup, j'ai fait plein de formations sur les réseaux sociaux. Et ça a été un énorme plus dans la création de mon activité. Parce que le travail sur les réseaux sociaux, c'est un vrai métier. Et de nos jours, c'est quelque chose qui nous permet énormément de nous faire connaître, surtout quand on arrive à un endroit où physiquement, en tout cas, on ne connaît personne. Donc, je me suis servi plein de choses. Le travail sur les réseaux sociaux, où j'étais déjà formée, donc ça a été une grosse aide pour moi. Le travail de développement personnel aussi, lié à toutes ces activités qui me parlent énormément, où on apprend à s'accepter, à travailler sur soi. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de mal à me montrer, à parler aussi de ce que je faisais. Ça a été un gros plus pour me développer et me faire connaître. Et surtout, je me suis servie de chaque rencontre pour m'aider. Donc j'ai énormément fait de recherches sur qu'est-ce qui existait dans le département, dans la région, au niveau de la périnatalité. Et en fait, j'ai pas hésité à aller, à prendre les devants. Même si j'avais peur, j'y suis allée quand même et j'ai contacté tout le monde. J'ai contacté les maternités, j'ai contacté les associations. Je suis allée à la rencontre de professionnels. Je me suis pris plein de portes fermées. Mais c'est pas grave, parce que sur 10 portes fermées, il y en a une qui s'ouvre et c'est la bonne. J'ai fait en sorte de participer à des projets locaux et de tisser du lien. Voilà, j'ai essayé de tisser du lien avec les personnes autour de moi. Et ça s'est vraiment fait progressivement, donc les réseaux sociaux. Indispensable. Le développement personnel pour apprendre à dépasser ses peurs, développer la confiance en soi, le regard des autres, l'avis des autres. Je pense que pour faire de l'entrepreneuriat, développement personnel a été indispensable pour moi, mais ça fait des années que je fais ça. Tisser du lien, aller à la rencontre, sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a vraiment énormément de choses et je pense que c'est tout ça qui m'a permis d'évoluer. Donc maintenant, je peux dire que ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai lancé ma micro-entreprise et je dois aussi parler de quelque chose d'extrêmement important, c'est que je suis très reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont tendu la main. Parce que, je le disais, il y a des portes qui se ferment, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent. Et on fait des rencontres absolument formidables. Et il y a des rencontres où les gens ont traversé les mêmes choses que nous. Et aujourd'hui, ils veulent aider. Donc j'ai plein de professionnels, même pas forcément dans le milieu médical, qui m'ont tendu la main et qui m'ont permis d'ouvrir mon réseau. Donc je suis toute seule, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà dans l'accompagnement au cœur de ma profession, je ne suis pas seule. Mais je ne suis pas là où je suis aujourd'hui uniquement grâce à moi. Voilà, il y a une partie de moi Il y a une partie des gens qui me soutiennent dans mon entourage proche. Et il y a une partie aussi de gens qui croient en ce que l'on fait et qui ont envie d'aider. Ça existe encore, et ça, il faut le souligner, qui m'ont énormément aidé. Voilà, des concours, des partenariats avec des commerçants aussi. Je me suis posé absolument aucune limite. Partout là où je peux aller, j'y vais. C'est du lien et travailler ensemble.
Avec des commerçants ?
Oui.
Alors là, je ne m'y attendais pas.
Ouais. Il y a une boutique qui a ouvert, je ne sais plus exactement, il y a quelques mois, peut-être un an, qui s'appelle 4 mai. C'est un concept store qui a ouvert en centre-ville. Et en étant présente sur les réseaux, bien sûr, j'ai suivi l'ouverture de cette boutique et j'ai tissé un lien avec Manon, la gérante de la boutique. On s'est tout de suite bien entendu. Du coup, ça me permet aujourd'hui de créer des ateliers collectifs au sein de la boutique. Donc c'est vraiment positif pour toutes les deux, puisque je fais venir du monde dans sa boutique, je fais découvrir son univers. Et on crée toutes les deux, avec nos deux personnalité, eh bien un petit cercle de soutien et je propose des ateliers massage bébé. Et là, bientôt, on va proposer d'autres choses voilà, pour pouvoir répondre à tous les besoins du secteur. Puis j'ai travaillé aussi avec des photographes, ça m'a beaucoup aidé. Je pense à Violaine, une photographe du coin qui m'a permis aussi de réaliser un concours et donc de partager son réseau avec moi. Je travaille avec Marlène Gueule de Loup Photographie, avec qui je travaille en collaboration autour du bain thérapeutique photographié, toujours au plus proche, dans le respect. Ça, c'est impératif pour moi, dans le respect du bébé et des parents. Donc voilà, je travaille vraiment avec plein de personnes qui ont plein de choses à apporter aux familles et c'est ce qui me permet de continuer à me développer progressivement.
Ce bain thérapeutique, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, c'est un soin qui est dans mes veines, je pense, depuis toujours. Et chaque rencontre me le confirme. Le thalasso-thérapeutique bain bébé, c'est un soin qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été créé par Sonia Krief, donc la créatrice de l'école du bien-être qui est basée à Suresnes. Et on est plus que sur un bain, on est vraiment sur un soin qui permet au bébé, mais aussi à la mère et au père.
Ça t'émeut beaucoup rien que d'en parler.
Ouais, c'est tellement compliqué de parler de ce soin parce qu'en fait, je le dis toujours aux parents, il faut le vivre pour comprendre ce qu'il peut apporter. Le but, c'est vraiment de permettre au bébé, donc c'est un soin qui se réalise durant les 21 premiers jours de l'enfant, c'est vraiment de permettre au bébé de repartir dans ses souvenirs, dans ses mémoires in utero et de pouvoir lui permettre de s'exprimer librement dans l'eau. Donc ce n'est pas un bain d'hygiène, c'est pas un bain où on va venir laver le bébé. On se sert de l'eau comme moyen thérapeutique pour qu'il puisse se souvenir, se libérer d'émotions qui lui appartiennent à lui, qu'il a pu ressentir avant la grossesse, pendant la grossesse, à la naissance et durant les premières heures de vie. Et ces sensations, ces émotions qui peuvent venir libérer dans l'eau, ça se fait aussi du côté des parents. Donc c'est un côté libérateur, mais aussi réparateur. Quand il y a eu, dans l'histoire des parents, quelque chose de compliqué, en préconception, pendant la conception, pendant la grossesse, à la naissance, quel que soit ce qui a été vécu, on peut venir le libérer et le réparer. Je dis toujours aux parents qu'on ne vient pas remplacer, puisque ça fait partie de leur histoire, mais c'est venir permettre à ce bébé et à ses parents de libérer absolument toutes les émotions. Et c'est là que le mot émotion prend tout son sens, puisque le soignant aussi, il a le droit d'exprimer à ce moment-là les émotions qu'il ressent. Et c'est un bain qui peut venir transformer, j'en suis absolument persuadée, l'arrivée d'un enfant et la naissance d'une mère et d'une famille, quand le lien a du mal à se créer, que ce soit pendant la grossesse ou à la naissance. Quand les premiers pas dans la vie d'un enfant peuvent être compliqués, quand les premiers pas dans la vie de parents peuvent être compliqués, c'est un bain qui peut vraiment tout changer. J'en suis certaine. C'est vraiment le retour des parents. C'est ce que je dis, c'est pas moi qui parle. Hein. C'est vraiment les parents et certains retours que j'ai eus qui me font dire que je suis persuadée que ce soin est très souvent indispensable, que ce soit pour les parents ou pour les bébés.
Mais d'ailleurs, j'incite les gens à aller voir ton site Instagram, hein, tout simplement parce qu'il y a des photos magnifiques de ces bains thérapeutiques où on voit des bébés extrêmement paisibles. Dans les mains de leur maman, j'imagine, la plupart du temps, sur les photos, quelquefois les tiennes.
Ouais. Alors en fait, c'est vraiment un soin qui est réalisé par le professionnel de santé, puisque c'est une formation qui est extrêmement exigeante. C'est une formation qui dure 3 jours, avec de vrais bébés, de vrais parents, où on apprend, c'est tellement, tellement complet, on apprend à manipuler le bébé dans l'eau, où on apprend à lui parler, où on apprend à analyser ses faits et gestes, ton regard, ce qu'il peut ressentir, à décrypter. Donc c'est un soin qui est réalisé par le professionnel de santé, mais c'est ce que je dis toujours aux parents, c'est votre moment, ce n'est pas le mien, je suis comme un pont pour passer à quelque chose. Donc je leur dis toujours, vous êtes dans le soin, vous êtes autour de moi, et quand tout s'y prête, je passe le relais aux parents, je les fais mettre les mains dans l'eau et je m'éclipse. Parce que parfois je sens qu'il y a vraiment besoin, ce bébé a besoin que ce ne soit pas moi qui soit présente à ce moment-là. Mais chaque bain est différent. Lorsque je me rends au domicile des familles, c'est ce que je leur dis toujours. Il y a ce que vous voyez sur les réseaux. Et il y a ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Lorsque je viens, j'ai une seule intention. C'est de permettre un lâcher-prise. Mais je ne maîtrise pas les émotions de bébé. Donc, il y a voilà, ce qu'on voit sur les réseaux qui est très beau. Mais il y a ce que vous allez vivre pendant ce soin. Ne vous attendez à rien. Le bain, il n'est pas là pour être... beau visuellement. C'est parce qu'il va se passer dans l'eau que vous allez vivre quelque chose et ce vécu, il vous appartient. Voilà, c'est vraiment très important de le souligner puisque de nos jours, on voit énormément de choses sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je dis, c'est une manière pour moi de développer mon activité. C'est pas du tout le cœur de mon travail. Je dis toujours que le jour où je pourrai m'en passer, ce sera tant mieux. Parce que voilà, il y a un côté positif dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de dérives et j'estime pas que ce soit le cœur de mon travail. C'est ce qui me permet de me faire connaître, c'est un énorme tremplin. Mais voilà, je dis toujours aux parents, attention à ce que vous voyez sur les réseaux, vous allez vivre quelque chose qui vous appartient et vous ne le savez pas encore.
J'imagine de toute façon que tu ne montres pas forcément tous les bains sur les réseaux.
Non, c'est vraiment un accord. Là, j'ai un formulaire d'autorisation de soins avec un droit à l'image que les parents signent ou pas. Et je leur dis toujours qu'il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de partager. Moi-même, je ne montre pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais fort heureusement, certains parents acceptent. Et c'est ce qui me permet de parler de mon travail, toujours en toute authenticité, spontanéité. Mais non, je ne montre pas tout. C'est la photo, c'est un instant T pendant le soin. Et des fois, j'aimerais tellement, par contre, pouvoir montrer le déroulé, par exemple, complètement d'un soin pour que les gens se rendent compte de ce que c'est vraiment. Mmh. On est au-delà de la beauté et de l'aspect visuel. La photo est belle, mais c'est tellement plus à côté.
Si on veut te retrouver à l'heure actuelle, c'est Naître et Renaître.
Tout attaché, sans aucun accent, donc NAITRE, tout attaché sur Instagram.
Pas d'autres supports ?
Je suis aussi sur Facebook, j'ai une page Facebook parce que j'utilise tous les réseaux sociaux, mais je suis moins présente sur Facebook.
Et pas de site internet ?
J'ai un site internet, mais pareil, j'ai fait le choix, ayant des facilités sur les réseaux sociaux. On sait que la création d'un site internet, c'est énormément de temps, énormément d'argent, et à ce jour, je ne pense pas en avoir besoin. Donc j'ai un site internet, mais qui est très peu visible sur internet, mais par contre, il y a le lien de mon site internet sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une page Google Pro où les parents peuvent mettre leurs avis. Et ça, c'est très important d'avoir le retour des parents aussi pour mettre en confiance et pouvoir continuer voilà, à développer mon activité.
Là, si j'ai bien suivi, tu espères qu'un jour, tu pourras fermer Instagram tranquillement, l'âme en paix, en sachant que de toute façon, le bouche-oreille fait le travail.
Oui, alors je ne me fixe pas d'objectif, mais déjà aujourd'hui, le bouche-à-oreille se met en place. Les mamans, de manière très naturelle, qui ont vécu ce bain il y a quelques mois, il y a un an, ne peuvent pas s'empêcher d'offrir ce soin aux personnes de leur entourage. Donc déjà maintenant, au bout d'un an, un an et demi, le bouche à oreille commence à se mettre en place et c'est agréable parce que du coup, on a l'impression de moins avoir à se battre pour faire connaître son travail et puis c'est gratifiant et on sait qu'on a aidé, on sait qu'on a rendu.
Vanessa, Sophie, Clara, Megan, merci Isabelle, Stéphanie.
Merci à toi Sophie.
Et tant d'autres femmes, elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat. Le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.